Jeanne Dulafour, c'était à notre connaissance la première femme archéologue militante, c'est-à-dire la première femme archéologue de terrain. Pas seulement la compagne de son mari, mais comme elle le dit elle-même, le compagnon. On va voir ce que ça veut dire, pourquoi compagnon et pas compagne. Et qui a non seulement aidé à la mission, au déroulement de la mission des fouilles de Suse, mais qui a eu une attitude extrêmement active, bon, puisque c'est elle en particulier qui est à l'origine de la découverte de la rampe d'escalier, bon, on verra tout à l'heure aussi plus en détail, et c'est elle qui au Louvre a remonté la frise, enfin qui a dirigé la reconstitution de la frise des archers, donc, qui sont au Louvre, et qui est un des fleurons du département des Antiquités orientales. Alors, pourquoi s'être intéressé à Jeanne Dulafour plus particulièrement? Bon, par l'aspect assez extraordinaire de ce personnage, bon, une femme archéologue au XIXe siècle. À cette époque, c'était évidemment pas courant du tout. Et puis aussi dans le cadre de l'histoire de l'archéologie française qui prend vraiment son essor à ce moment-là, au tournant des années 1850. C'est un moment où on peut dire que bon, se multiplient les fouilles, en particulier en Orient, ce qu'on appelait l'Orient au XIXe siècle, c'est-à-dire pour nous l'Asie antérieure jusqu'à l'Iran, et bien entendu la Grèce, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. C'est le moment aussi où l'archéologie va s'institutionnaliser, c'est-à-dire qu'elle va devenir une véritable science, entre guillemets, puisque c'est une science humaine, et elle va être menée par des professionnels. Alors les dieux la foi, ce n'est pas encore l'archéologie professionnelle, mais c'est en train de le devenir, puisque Marcel Dulafoy, lui, est ingénieur des ponts et chaussées et polytechnicien. Bon, Jeanne Dulafoy, elle, a une formation classique très approfondie. Elle connaît le latin, le grec, elle a des dispositions pour les langues. Elle apprendra le persan, l'arabe, bon, et toutes les langues européennes. Mais ce ne sont pas des gens qui font de l'archéologie leur métier. Bien que Marcel Dulafoy deviendra membre de l'Institut, donc en tant qu'archéologue, mais c'est avant tout un ingénieur des mines et ponts et chaussées. Alors, qui est Jeanne Dulafoy? Bon, comme Marcel d'ailleurs, ils sont tous les deux Toulousains. Alors, Jeanne Dulafoy est née en 1851, elle mourra en 1916, donc c'est en gros entre le Second Empire et le milieu de la guerre, la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Quant à Marcel, il est un petit peu plus âgé, il est né en 1844 et il mourra quelques années, inconsolable d'ailleurs, quelques années après Jeanne Dulafoy en 1920. Et vraiment, ils connaissent cette grande période de l'archéologie française qui va se développer encore plus à partir de 1870. Donc le tournant de la Troisième République. Et justement, l'expédition de Suse, par laquelle ils sont célèbres, se déroulera bon, alors, en deux moments très distincts, que sont à partir de 1881 et jusqu'en 1882, pendant deux ans, donc une longue période, l'exploration de la Perse d'une part, donc un voyage pendant lesquels ils parcourront 6000 km à cheval, en caravane, et d'autre part, un deuxième temps, donc de 1884 à 1886, l'exploration, les fouilles proprement dites à Suse. Pour l'enfance de Jeanne Dulafoy, on ne sait pas grand-chose, sauf que tous deux sont nés à Toulouse, que tous deux appartiennent à des familles de négociants, ont des familles de gens d'affaires, très à l'aise, c'est important, parce que effectivement, ils vont pouvoir se permettre de faire de l'archéologie. Lui quittera le poste qu'il occupe à Toulouse au chemin de fer pour venir à Paris et organiser l'expédition en Perse. Donc le fait du milieu social, de l'aisance matérielle économique, c'est un point très important, effectivement, pour le genre de vie que mènera Jeanne Dieu la Foy aussi, bon, puisque elle ne manquera de rien, qu'elle aura des personnes pour la servir, enfin, elle n'aura pas de préoccupations matérielles, disons. Elle le déclare devant des jeunes filles qui sont réunies pour une conférence à Rouen, puis il n'y a pas lieu de mettre sa parole en doute. Elle a eu une enfance tout à fait ordinaire. Alors, peut-être pour expliquer sa personnalité, elle est tout de même la dernière d'une longue lignée de filles. Et elle a eu un frère aîné, qui était donc le premier de la famille, mais qui est mort très tôt, pendant un séjour en Espagne. Donc, on a un peu l'impression qu'elle a remplacé ce frère par son tempérament, qui était tout de même très bouillant, très énergique. Donc elle a pris la place de ce frère aîné qui avait très tôt disparu et qu'elle était un petit peu garçon manqué, disons. Et puis elle va donc rencontrer Marcel Dieu la Foy, qui est un brillant ingénieur, sorti de Polytechnique, et qui a passé quelque temps, environ 7 à 8 ans, en Algérie, au moment où Napoléon III demande à ce qu'on développe les voies de communication en particulier. Donc il travaille quelque temps en Algérie, c'est très important parce que c'est le premier contact avec l'Orient. Donc, et ce goût qu'il a pour l'architecture et pour l'archéologie dès cette époque. Alors à Toulouse, il va faire une rencontre extrêmement importante qui est celle de Jeanne Viollet-le-Duc, dont vous connaissez les restaurations de Notre-Dame, du château de Pierrefitte, de la Madeleine de Vézelay. Et il va travailler sous ses ordres la restauration des monuments de Toulouse. Et ils vont beaucoup discuter sur l'origine, un point qui préoccupait beaucoup et Dieu la Foy et Viollet-le-Duc, qui est l'origine de la voûte gothique, donc de notre art gothique médiéval. Et Dieu la Foy a l'idée qu'on doit chercher cette origine en Orient, mais l'Orient, cette fois-ci, lointain, et en particulier en Perse. Et c'est là que naît l'idée du voyage en Perse. Le voyage en Perse, en fait, a pour mobile principal, c'est bon, ils ne partent pas par simplement goût de l'aventure, attirance pour un Orient qui n'était pas encore très exploré, mais pour vérifier cette hypothèse de l'origine iranienne, l'origine persane de la voûte gothique. Bon, je laisse un peu de côté un épisode important, qui est tout de même la guerre de 1870-71, pour comprendre le personnage de Jeanne Dieu la Foy. Elle est tout juste mariée à 19 ans, à la sortie du couvent de l'Assomption d'Auteuil, où elle a fait toutes ses études secondaires. Puis ils se sont mariés en mai, et la guerre est déclarée au mois de juin. Alors, toute jeune femme raisonnable aurait trouvé refuge probablement à Toulouse, au sein de sa famille, alors que Marcel, lui, rejoignait le front de la Loire et donc les forces de résistance contre l'occupation prussienne. Ce n'est pas du tout ce que fait Jeanne Dieu la Foy, elle n'a aucune hésitation et elle suit son mari, elle accompagne son mari sur le front de la Loire. Et dès ce moment-là, alors qu'on la voit ici sous son costume habituel, qui est le costume masculin, bon, et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'elle prend ce costume masculin, puisqu'elle veut endosser la capote militaire, mais elle n'en a pas le droit, elle ne peut pas endosser l'uniforme de soldat, mais elle prend celui de franc-tireur. Elle n'a pas été la seule, hein. Il y a eu d'autres femmes qui ont fait des actes d'héroïsme d'ailleurs, donc pendant cette guerre de 1870-71, mais enfin c'est tout de même assez extraordinaire, bon, et c'est très révélateur de son tempérament chez une jeune fille de 19 ans. Et elle va se distinguer, enfin bon, par des actes d'héroïsme, des chevauchées extraordinaires, une nuit de Noël, bon, avec une troupe de Prussiens aux trousses, etc. Enfin, bon. On a des documents qui nous la montrent vraiment très active. Et cette idée de la Perse, effectivement, continue à germer dans l'esprit de Marcel Dulafoy. Et en 1881, donc, ils vont partir, donc à peu près 10 ans après la participation à la guerre de 1870-71. Alors ça aussi, c'est une constante chez Dulafoy, c'est cet esprit patriotique. C'est un petit peu étrange aujourd'hui, enfin je veux dire qu'on a un petit peu oublié cet aspect-là, mais c'est une constante, ce sont des représentants assez caractéristiques de la Troisième République, donc républicains, catholiques, libéraux et patriotes. On aura évidemment une attitude semblable au moment de la guerre de 1914, puisque Marcel, qui a tout de même à l'époque déjà, il est âgé, puisqu'il a 70 ans, il est colonel et il demande à être réintégré dans les cadres de l'armée. Et c'est à ce moment-là, donc à la fin de leur vie, ils rejoindront un autre Orient, qu'est le Maroc, puisque la fin de leur vie se passe au Maroc. Donc une constante, l'esprit, disons, patriotique. Donc en 1881, Marcel s'est mis en congé de son poste, puisqu'il prépare un long voyage qui va durer 2 ans. Ils partent en février 1881 et ne rentreront qu'en décembre 1882, donc c'est presque 2 ans. Donc il demande un congé et il a très peu d'argent, enfin très peu de missions, si vous voulez, de frais de mission officiels, mais il a l'appui d'un personnage très important qui est Monsieur Louis Dronchot, qui est directeur des musées nationaux, et à qui Eugène Viollet-le-Duc l'a introduit. Alors ce personnage est très important parce que, alors pour la première mission, il ne va pas pouvoir leur accorder de crédit, il n'y a rien qui puisse être tiré des fonds pour eux, mais il va donner des autorisations, il va leur faire ce qu'on appelle aussi des recommandations, donc permettre quand même d'avoir des relations disons, normal avec les autorités persanes. Et puis par la suite, il ne se démentira pas de son appui et il va jusqu'en 1886 et jusqu'à l'installation des frises au Louvre, il va toujours soutenir Marcel et Jeanne Dulafoy. Et d'autre part, il va concourir à créer le département des Antiquités orientales où les objets rapportés par la mission Dulafoy vont être intégrés et vont constituer une partie très importante. Donc ils partent, ils vont, je l'ai un peu dit tout à l'heure, parcourir 6000 km à cheval. Alors ils commencent par employer des moyens plus confortables, entre guillemets, parce que ces moyens-là vont se révéler en fait terribles. C'est-à-dire une énorme diligence avec, je crois, 14 chevaux. Bon, ils passent par le Caucase, c'est-à-dire donc ils abordent l'Iran par le nord. Hein. Donc ils vont traverser l'Arménie, etc. Mais on est en février, bon, il fait très très froid, la neige est très abondante. Il faut changer souvent les chevaux. Bon, la grosse diligence, beaucoup trop lourde, se renverse perpétuellement. Et quand on arrive au relais de poste, changer 14 chevaux d'un coup, bon, c'est pas possible. Donc c'est à partir de ce moment-là, fort de cette expérience très très négative des premiers temps de l'expédition, donc ça dure je crois pendant une quinzaine de jours, ils vont décider d'employer le moyen le plus facile qui est le cheval. Donc ils vont y être fidèles pendant tout leur séjour de 80 jusqu'à 86 et parcourir 6000 km. Donc l'Iran, la Perse de l'époque totalement parcourue du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors pourquoi faire? Eh bien pour faire des relevés de monuments. C'est-à-dire tous les monuments, que ce soit des monuments civils, religieux, militaires, où on peut retrouver ce qui a pu constituer l'origine de la voûte gothique. Et effectivement, ils font un travail, tous les deux, un travail remarquable, épuisant. Ils ont des journées de 8 heures de chevauchée, c'est courant. Et interrompue par des relevés de plans, des relevés aussi photographiques, et toute la couverture, alors ça c'est aussi tout à fait extraordinaire de la part de Geneviève Lafoy, toute la couverture photographique a été assurée par Geneviève Lafoy. C'est elle qui a assumé complètement la réalisation des photographies qui sont tout à fait remarquables, et y compris dans les ouvrages de Martial Dieulafoy sur la Perse, puisqu'ils ont écrit, enfin, quand ils sont revenus, elle a écrit dans le Tour du Monde la Perse, la Chaldée et la Susiane, et puis le Journal des Fouilles. D'autre part, Marcel, lui, a fait des ouvrages à caractère plus strictement scientifique, donc sur l'art de la Perse en particulier. Mais toute la documentation photographique est réalisée par Geneviève Lafoy. Bon, c'est la première fois, par exemple, qu'à Persépolis, on a de si bons documents, enfin de si bons relevés, alors aussi bien en plan, mais évidemment en photographie. Alors là, on va pousser un petit cocorico quand même. Parce qu'il y avait eu avant une mission allemande, parce qu'on a toujours l'habitude de comparer l'Allemagne et la France, et à cette époque-là, évidemment, d'autant plus qu'on est juste après la guerre qui a été si traumatisante. Bon, il y a eu une mission allemande, et il y a donc ensuite à Persépolis la mission Dieulafoy. Et tout le monde s'accorde à dire, y compris d'ailleurs les savants allemands, les savants anglais, les savants américains, que les documents rapportés par les Dieulafoy sont d'une exceptionnelle qualité et qu'ils dépassent de très très loin ce qu'avait réalisé la mission allemande. Donc c'est vous dire, hein, c'est pour vous donner une idée de la qualité du travail réalisé. Donc ils vivent, je ne vais pas tout vous raconter, hein, mais ils vivent des aventures tout à fait extraordinaires, bon, difficiles évidemment, parfois ils se mettent, enfin ils sont dans une situation délicate, puisque, alors il y avait eu d'autres missions en Perse, en particulier la fameuse mission Gobineau. Bon, Arthur de Gobineau avait fait partie d'une ambassade. Alors, quand on fait partie d'une ambassade, c'est pas la même chose que lorsqu'on est un couple, que l'on n'est que deux, puisque Gobineau avait tout évidemment un apparat, une caravane énorme avec des tentes magnifiques, bon, qui impressionnaient beaucoup. Alors que les Dieulafoy sont, aux yeux des Persans, deux pharangis, c'est-à-dire deux étrangers, bon, qui n'ont aucune escorte. Ils n'ont de protection que leurs armes, et ça c'est très important, parce que c'est tout de même très efficace, et les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Alors il y avait un Anglais aussi, qui est un personnage aussi tout à fait extraordinaire, qui s'appelait Layard, qui est aussi un très grand archéologue, qui avait parcouru la Perse avant eux. Alors lui avait trouvé une autre solution, il avait une toute autre attitude. Eux, les Dieulafoy, étaient habillés en français, enfin en occidentaux. Ils ne prenaient pas les vêtements des régions qu'ils traversaient. Alors que Layard, bon, pour lui encore, c'était encore pire puisqu'il était tout seul. Eux étaient deux, mais lui était tout seul. Donc il avait adopté l'attitude de changer de vêtements à chaque fois qu'il traversait une région différente, et il endossait le vêtement des gens, donc, parmi lesquels il circulait. Bon, ce qui était une bonne méthode. Donc, des aventures multiples, variées, des accidents, des agressions, enfin bon, ils vont tout connaître. Et en premier, les agressions du climat, puisque le climat est très rude. Il y a des différences de température entre le jour et la nuit qui sont terribles. Bon, les maladies, la fièvre, la fameuse fièvre que l'on soigne par la quinine. La quinine qui n'est pas sans effet secondaire, puisqu'elle affaiblit l'organisme en particulier, et elle diminue l'acuité visuelle, dont Jeanne s'en plaindra. Les Dieulafoy vont mettre presque 2 ans au retour à Paris pour se remettre de toutes ces difficultés et de ces souffrances qu'ils ont endurées. Mais une chose extraordinaire, outre l'intérêt scientifique, bon, la qualité de leur travail, c'est la façon dont se soude le couple, parce que ça aussi c'est un point très important de cette histoire, c'est la façon dont ce couple va vraiment se souder complètement pendant ce séjour de 2 ans en Perse. Pourtant, Jeanne Dieulafroy n'est pas quelqu'un qui se confie. Quand elle écrit, c'est quelqu'un de très, disons, de très rationaliste, d'assez froid. Mais on a les preuves presque involontaires de cette affection qui les lie, de cette attention qu'ils ont l'un pour l'autre, de ce soutien, cette solidarité absolue, avec un petit peu de malice parce qu'ils ont de l'humour. Hein, ils se moquent l'un de l'autre de temps en temps quand ils sont en difficulté. Mais c'est tout à fait extraordinaire. Et ça, c'est une constante aussi. Ça va être une constante de leur vie. Bon, Marcel, quand Jeanne va décéder en 1916, va être tout à fait inconsolable et va demander à s'exposer, puisqu'on est en 1916, et il demande à être nommé sur le front de Compiègne. Et on a des documents très émouvants du journal tenu par Marcel, donc sur le front, où il appelle la mort de ses vœux. Ceci dit, il a fait son devoir, il ne s'est pas précipité au devant, elle n'a pas voulu d'elle tout de suite, mais il pense sans arrêt à Jeanne, où on a une très belle lettre, où il dit devant un ciel étoilé, cela me rappelle les ciels de Perse que j'ai connus avec ma chère compagne. Bon, donc c'est toujours, toujours présent. Or, c'est un couple qui a offert le flanc, disons, à la caricature, au sarcasme. On a un document, c'est dans le livre, je crois, celui de l'assiette au beurre, cette caricature de l'assiette au beurre qui est terrible, avec la contrepétrie. Les fouilles de Madame Dieulafroy sont curieuses. Bon. Ouf, on remarque Jeanne Dieulafroy en pantalon, bien sûr, et Marcel en chemise. Donc c'est un couple qui effectivement a provoqué le scandale, puisque quand ils sortaient des salons, on disait les chapeaux et les vêtements de messieurs Dieulafroy. Mais c'est surtout, enfin, dans la réalité, je pense, c'est un couple qui a été extrêmement soudé. C'est un couple moderne, disons. Hein. Je pense que c'est un des exemples, comme les Curie, comme les Berthelot aussi, mais sur d'autres plans et différemment, mais un des couples qui ont fondé le couple d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'homme et la femme, donc dans une égalité, bon, pas l'équivalence, hein, ils ont des compétences, des qualités différentes, des aptitudes différentes. Donc, expédition à Suse, Jeanne va en rapporter la Perse, la Chaldée et la Susiane, qui sont non pas des récits de voyage, alors ça aussi c'est très différent de ce que l'on avait à l'époque, ce n'est pas rempli d'anecdotes, ce ne sont pas que des anecdotes plus ou moins drôles, mais c'est une œuvre de grand reporter et déjà d'ethnologue et de sociologue. C'est-à-dire qu'elle a une vision de la Perse qui est une vision extrêmement réfléchie. Hein, c'est pas simplement susciter la curiosité par des anecdotes plus ou moins drôles, mais c'est réfléchir sur la forme de gouvernement, sur l'économie, sur la condition féminine, bien entendu, puisqu'elle a cette chance, compte tenu très très peu d'Européens, de pouvoir pénétrer dans les andérounes, c'est-à-dire les harems de Perse. Donc d'être en contact avec les femmes, bon, et d'avoir un contact extrêmement proche, puisqu'elle était femme elle-même. Il y a d'ailleurs des entrevues qui sont très drôles, parce que ce n'est pas Jeanne Dieulafroy qui est la plus surprise de découvrir ces femmes persanes, ce sont les persanes qui sont extrêmement surprises et qui ne reviennent pas du tout. Bon, elle ne croit pas que c'est une femme d'abord, bon, parce qu'elle a les cheveux courts, parce qu'elle est en pantalon, bon, parce qu'elle n'a pas les attributs féminins des persanes. Donc il y a des échanges assez drôles. Mais donc, c'est une analyse véritablement sociologique et ethnologique, avec des documents, dont des gravures qui sont tirées de photographies, qui sont très intéressantes aussi du point de vue, si vous voulez, de témoignage d'un état de l'Iran à cette époque. Bon, évidemment, d'un Iran qui n'existe plus et qui a assez vite disparu d'ailleurs après le voyage des Dieulafroy. Donc ça avait un intérêt documentaire extrêmement important aussi. Et puis donc, ils arrivent en fin de voyage sur le site de Suse, sans aucune intention de fouiller à Suse. et l'intention leur est venue après. Alors il n'y reste pas très longtemps, parce qu'il fait un temps épouvantable, des pluies torrentielles, et puis ils sont épuisés aussi. Et on est au terme du voyage, au bout de presque 2 ans, et ils sont très très fatigués. Et de retour à Paris, ils ont tout de même visité le site et ils ont vu les traces des fouilles anglaises qui avaient eu lieu une trentaine d'années auparavant, vers 1853-54, menées par Loftus, qui est aussi un archéologue important. Et ils avaient vu les traces du palais d'Atagersès, c'est-à-dire, il n'y avait plus grand-chose, mais on voyait les colonnes en particulier, donc que Loftus avait réussi à dégager. Bon, les fûts de colonnes très arasés, hein. Vous n'imaginez pas Persépolis, hein. Ça n'avait rien à voir du tout. Et quand il rentre à Paris, ils se sont mis dans la tête de fouiller à Suse. Alors là, l'idée patriotique est présente aussi, hein, puisque je viens de vous dire qu'il y avait présence anglaise, et c'est permanent jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale et même après. Donc au Moyen-Orient, en Asie antérieure, une concurrence anglo-française, hein, plus que allemande, française. C'est surtout les Anglais dans cette région à ce moment-là. Donc, ce sentiment que tout de même Suse mérite que les Français s'y intéressent. Alors, ils ont le soutien évidemment de Louis de Ronchaud, à qui l'idée sourit, bien sûr, et qui va cette fois-ci les y envoyer avec un petit crédit, bon, je crois que c'est 30 000 francs, c'est rien du tout, si on compare aux crédits énormes dont bénéficiera la mission suivante, c'est-à-dire Jacques de Morgane. Jacques de Morgane va être l'ennemi, donc jusqu'à la fin, des dieux la foi, puisque c'est lui qui prendra la place des dieux la foi à Suse et qui réussira à la prendre par des moyens tout de même assez peu avouables, à partir de 1897. Et lui va bénéficier de crédits énormes, jusqu'en 1912. Bon, avec un énorme scandale justement sur l'emploi de ces crédits qui va se répercuter à l'Assemblée et Clémenceau va intervenir, ben, ça va être une histoire tout à fait extraordinaire. Donc très peu de crédits. Et ils arrivent sur ce site, alors Suse, on le voit sur la couverture du livre, et c'était au moment où le livre est paru, et ça c'était un hasard, au moment où la guerre du Golfe s'est déclenchée. Donc on est tout près, Suse est ici et Bagdad est là. Donc on est à 60 km à Suse, on est à 60 km de la frontière irakienne. Et à 200 km environ du golfe Persique, donc c'est le sud de la Perse, Suse. Ça a été une capitale, Suse est située aussi tout près du tombeau de Daniel, un des grands dieux de l'islam. Et se trouve aussi dans une région qui est la plus fanatique de toute la Perse à ce moment-là. Et donc où des occidentaux, des chrétiens, ne sont pas accueillis à bras ouverts. Donc ça va être très difficile. Loftus avait constaté que l'expérience avait été très très difficile, mais les dieux de la foi vont eux aussi faire la même constatation. Donc ils vont rencontrer de multiples problèmes avec les autorités locales en particulier, et sur un point très important qui est le partage des objets. C'est une des raisons pour lesquelles les dieux de la foi n'ont pas pu retourner en Perse, puisque le shah de l'époque s'appelait Nasreddin, bon, et ils avaient réussi à obtenir de lui que la moitié des objets reviendraient à la France. Alors, ce qui intéressait Nasreddin Shah, c'était essentiellement les objets précieux, tout ce qui était or, argent. Or, les dieux la foi, ce qu'ils vont trouver de plus précieux, ça n'est ni de l'or ni de l'argent, c'est ce que vous avez ici, c'est-à-dire les frises de briques émaillées. Il faut bien dire qu'à cette époque, c'est pas seulement en Iran, mais c'est partout au Moyen-Orient, au Proche-Orient et même en Grèce, on n'a pas encore l'idée du patrimoine culturel, du patrimoine archéologique. Et Jeanne Dulafoy, Marcel Dulafoy, après, lorsque la polémique a éclaté, ont donné un argument de bonne foi, et je pense qu'à l'époque il était valable, c'est que, de toute façon, s'ils avaient laissé en Perse les frises de briques émaillées, elles auraient disparu, parce qu'à cette époque-là, on n'y attachait aucune importance. Il n'en reste pas moins que c'est ce qu'on leur a objecté pour leur retour à Suse. Ceci dit, les vraies raisons étaient ailleurs, puisque c'est Jacques de Morgan qui avait intrigué pour récupérer le chantier. Donc ils vont trouver ces vestiges des frises émaillées. Alors l'une, c'est la plus célèbre, c'est celle des archers de Darius, qui correspond au premier palais, qui est donc du VIe siècle. Et d'autre part, la frise des lions, qui avait été d'ailleurs découverte en premier, qui est plus tardive, et qui correspond au palais d'Ataxerxès Mnémon. C'est la première fois qu'on découvre des frises de ce type en Perse. Bon. On en connaissait à Babylone, en Mésopotamie, et le sang, on savait qu'on les produisait dans l'Antiquité. Alors le travail de dégagement de ces frises est un travail extrêmement délicat, puisque on les retrouve complètement renversées, elles surmontaient un grand mur, un très haut mur. Quand le mur s'est effondré, bien entendu, les briques se sont retrouvées, la face contre terre, et elles se sont plus ou moins désagrégées. Et on les retrouve sous forme d'un conglomérat énorme. Donc il faut les dégager au couteau, une par une. Une fois qu'elles sont dégagées, il faut bien entendu les numéroter, c'est le travail de Jeanne Dulafoy, les numéroter, les mettre dans des couffins par groupe, et puis, dès le moment de la découverte, essayer de reconstituer un ensemble. Et c'est ce qu'ils font, et ce qui permettra de reconstituer la frise au Louvre. Et donc, ils font une aquarelle dès le début. Alors ils ont du mal d'abord à identifier, je pense qu'à un moment on trouve simplement l'épaule, on n'a pas encore découvert de témoignage du visage, donc on ne sait pas de quoi il s'agit. Évidemment c'est un véritable puzzle. Et quand ils vont revenir ensuite en France et les reconstituer au Louvre, bon le travail est considérable, ça va prendre plusieurs mois de travail, environ 6 mois de travail quotidien, à 4, puisque la mission Dulafoy est constituée de Marcel de Jeanne, et de 2 jeunes gens, Babin et Housset, qui sont des élèves des grandes écoles, l'un de l'école normale et puis l'autre de l'école des mines. Et c'est Babin d'ailleurs qui va établir le plan d'ensemble de Suse, qui est un plan excellent qu'on a utilisé jusque dernièrement encore. Donc une mission tout à fait extraordinaire. Ils reviennent avec 45 tonnes de matériel, c'est vous dire l'énormité. Avec des difficultés de transport sur place, puisqu'ils rapportent donc les frises, ils font faire des caisses, on les met dans des caisses, bon, ça c'est pas encore un énorme, enfin c'est un gros problème, mais ça peut se résoudre, la preuve, mais ils ont trouvé aussi ce que vous avez peut-être vu au Louvre, cet énorme chapiteau avec les taureaux adossés, c'est du marbre, c'est extrêmement lourd, et on n'a pas de charrette, un pays où la charrette n'existe pas. On ne peut pas envisager que les chameaux portent ces éléments, donc il faut construire des charrettes. Marcel n'est pas ingénieur pour rien, il imagine des charrettes qui pourront supporter ce poids. Et on élève les mulets pour les dresser, on les dresse donc pour tirer, parce qu'ils ont très très peur, ils sont effrayés évidemment. Ça prend des semaines et des semaines. Il faut remonter le cours du fleuve pendant 40 km pour arriver à un endroit où on pourra faire le transbordement. Et je crois que ça a dû prendre 2 mois. Bon, donc 45 tonnes de matériel qui arrivent à Marseille, qui vont être acheminées à Paris par le PLM, donc par chemin de fer. Le plus grand désir des dieux de la foi, quand ils reviennent, c'est évidemment d'installer tout ça au Louvre, et de reconstituer ces frises sur quoi ils s'attachent. Alors, le retentissement est extraordinaire, on a peut-être un petit peu de mal aujourd'hui à imaginer, parce qu'on n'avait pas les mêmes moyens médiatiques, on n'avait pas de télévision, de radio, donc c'est transmis par les journaux, Et donc ils font la une de l'illustration, donc un très beau numéro, du Temps, du Figaro, enfin des très grands journaux de l'époque. Toutes les revues scientifiques parlent des découvertes de la foi, parce que la France, grâce à eux, est le premier pays d'Europe, c'est-à-dire du monde, parce que de toute façon, de collections archéologiques, il n'y en avait alors qu'en Europe, donc à posséder des antiquités persanes. C'est évidemment un événement extrêmement important. Bon, alors, il y a eu d'autres fouilles avant et en même temps au Moyen-Orient, en particulier en Mésopotamie, bon, des fouilles françaises, des fouilles anglaises et des fouilles allemandes, les Allemands venant un petit peu en retard par rapport aux Anglais et aux Français. Par exemple, c'est Émile Botta qui avait fouillé Ninive, grande ville de Mésopotamie, et qui avait rapporté ces grands bas-reliefs avec la légende de Gilgamesh qu'on a au Louvre aussi. Et ça, c'était en 1847, 40 ans auparavant. Et puis, vers 1875, c'est Ernest de Sarzec, un ambassadeur, qui avait fouillé Lagash, donc qui est un grand site aussi de Mésopotamie. Donc le département des Antiquités orientales se mettait en place. Et ce que rapporte Dieu la foi en est un élément extrêmement important. Donc à ce moment-là, Jeanne va entamer une carrière littéraire, puisqu'elle va raconter ce voyage en Perse et ses fouilles à Suse, donc dans la revue Le Tour du Monde, qu'on a ici, qui est une très grande revue de l'époque, et qui est spécialisée dans les récits de voyage. Alors il faut se remettre aussi dans le contexte. C'est le moment des romans de Jules Verne aussi, c'est exactement la même époque. C'est le moment où se développe le goût de l'exotisme, et où aussi Jules Ferry développe toute une politique coloniale. Bon, il faut bien mettre en rapport, hein, dans l'histoire de l'archéologie française, l'archéologie est inséparable d'une politique coloniale, c'est évident, d'une influence des grandes puissances européennes sur ces régions du Moyen-Orient, du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Donc elle va entamer ainsi une carrière littéraire. Alors elle va commencer aussi, alors non seulement les récits de voyage, mais les romans. Elle se lance dans le roman historique. Alors le roman historique est un peu sur le déclin quand elle fait paraître son premier roman historique, c'est-à-dire Parisatis, qui paraît en 1890, quelques années après leur retour de Perse. Parisatis, c'est une reine perse, c'est la mère de l'Ataxercès dont ils ont retrouvé le palais, et c'est, au dire de Gaston Maspero, la plus terrible femme qui ait jamais produit les harems de l'Orient. Une femme effectivement tout à fait effrayante, une femme roi qui va exercer le pouvoir à la mort de son mari Darius, qu'elle aura au préalable empoisonné. Enfin, c'est une histoire extraordinaire. Enfin, moi j'ai ressenti ça comme une tragédie racinienne. Et c'est magnifique, ça vaut Salammbô dans l'horreur aussi, hein. Mais c'est dans cette lignée-là, c'est la lignée de Salammbô de Flaubert. Et donc, cette femme roi terrible a un fils préféré qui est Cyrus, elle va tenter de le favoriser, mais il va trouver la mort en s'opposant à son frère Ataxercès, et elle n'aura de cesse que d'avoir vengé dans des conditions atroces, et sur tous ceux qui ont été mêlés à la mort de Cyrus, ou qu'elle pense avoir été mêlés. Quand même, pour faire l'équilibre, on a une ravissante jeune femme qui est la grecque Aspasie tout de même, parce qu'on aurait une vision de la femme un petit peu trop dure. Donc un roman historique, il va y en avoir d'autres qui sont tout à fait différents. Celui-là est particulièrement intéressant parce qu'il est inspiré directement de leur expérience archéologique, bien entendu. Enfin, on retrouve sous un autre jour, et c'est intéressant, les témoignages que l'on trouve dans les fouilles à Suse, dans le journal des fouilles. C'est-à-dire qu'elle a évidemment un autre point de vue, un autre regard sur les ruines, et elle présente Suse dans sa splendeur, bien sûr. Et ça, c'est intéressant du point de vue aussi de la façon dont ils s'imaginaient la ville de Suse à partir de ce qu'ils avaient trouvé. C'est intéressant parce que c'est la première fois que l'archéologue fait tout le cheminement, c'est-à-dire on va sur le terrain, on fouille, on dégage les ruines, et puis après, eh bien, on retrouve l'histoire, Et par le biais de l'histoire, on a une reconstitution de la ville, mais une reconstitution qui n'est pas une reconstitution évidemment matérielle, mais une reconstitution imaginaire, mais à partir d'éléments très concrets. Alors ça aussi, c'est une démarche très intéressante et qui n'est pas si fréquente. On connaît aujourd'hui des préhistoriens qui ont fait de la science-fiction, mais c'est quand même assez différent. D'archéologues écrivains, on n'en connaît pas beaucoup. Donc elle va se lancer dans un roman historique, elle va faire un roman révolutionnaire. Alors il y a une constante chez Jeanne Dieulafroy, ce sont toujours des héroïnes. Bon, alors là on va rejoindre l'aspect Jeanne Dieulafroy, femme féministe, bon, quel point de vue sur la femme. Alors dans Volontaire, c'est une jeune fille qui va se déguiser en soldat de la Révolution, qui va donc prendre l'uniforme, mais pas en tant que femme, elle se fait passer pour un homme, pour protéger son père et combattre à ses côtés. Et puis on a également Frère Pélage, bon j'en parle parce que vous allez voir que cette constante bon, est évidente, Frère Pélage, alors c'est Marguerite donc qui, devant Carcassonne, assiégée par les morts, fait le serment que si Carcassonne est sauvée, elle deviendra moine, bon, ce qu'elle fait. Elle revêt la bure de moine et devient bon. Donc il y a un travestissement, une transformation d'une femme en homme. Ça évoque inévitablement le personnage même de Jeanne Dieulafroy et ça pose des tas de questions. D'après les documents qu'on a pu étudier bon, à l'Institut, à la bibliothèque de l'Institut, on a tous les documents personnels, on a 37 cartons d'archives, donc avec vraiment tout ce qui a pu être écrit, et surtout par Jeanne d'ailleurs, on s'aperçoit de façon très claire qu'il y a un problème d'identité indéniable. C'est-à-dire que effectivement, elle est très attirée par ce qu'elle appelle les femmes rois, hein, toutes celles qui ont exercé le pouvoir, alors par Isatis, mais c'est pas la seule. Isabelle la catholique, par exemple, à qui elle va consacrer une biographie, et qui sera posthume, publiée en 1921, et qui est très intéressante, mais qui aussi a des caractères masculins, puisqu'elle exerce le pouvoir, puisqu'elle a cette attitude de décision qu'on n'a pas à cette époque. Et elle est très attirée aussi par les travestis, hein, par les gens dont l'identité n'est pas complètement claire. Ils n'ont pas eu d'enfant, ils l'ont toujours regretté, bon, mais il est certain qu'il y a une difficulté d'être, si vous voulez. Hein, bon. Et j'ai insisté tout à l'heure sur le couple, parce que en même temps, bon, c'est très émouvant, on sent qu'il y a un problème, mais qu'ils l'ont finalement surmonté. Ce qui a prévalu, c'est l'affection mutuelle, c'est l'aspect de création aussi ensemble, dans des voies différentes, mais donc une solidarité qui a duré jusqu'à la fin de leur vie. Donc cet aspect de Jeanne féministe. Alors je ne sais pas, moi j'hésite même à dire qu'elle est féministe, parce que tout de même elle est aussi l'auteur de ce magnifique plaidoyer contre le divorce qui s'appelle Déchéance, qui est très drôle à lire aujourd'hui, mais qui est vraiment très très daté. Bon, enfin ça a beaucoup vieilli, enfin c'est illisible autrement dit. Donc, d'une part, quelqu'un qui est féministe parce qu'elle lutte, elle milite réellement pour l'accomplissement intellectuel de la femme, pour que la femme soit reconnue en tant qu'être pensant, ce qui n'était pas à l'époque de l'ordre de l'évidence. Quand on pense au pamphlet de Dumas ou à celui de Barbey de Révilly sur les bas bleus, par exemple, qui sont des pamphlets terribles. Et puis d'autre part, une position qui nous paraît à nous paradoxale sur le divorce. Elle est absolument opposée au divorce. Donc elle imagine ce roman où les dés sont pipés d'avance, puisqu'on a une magnifique héroïne qui a tout pour réussir. Elle est belle, elle est intelligente, mais elle est divorcée. Alors dans la mesure où elle est divorcée, la malédiction pèse sur elle et il n'y a pas de salut. Le mariage avec l'homme qu'elle aime est impossible, elle va être la source du malheur de cet homme, et il n'y a pas de solution. Et il y a un autre personnage féminin qui semble être l'idéal féminin pour Jeanne, et qui à nous, nous paraît inacceptable. bon, cette sœur qui est tellement... Alors que dans le personnage réel de Jeanne du Laffoy, elle n'apparaît pas sous ce jour-là, c'est-à-dire catholique, très, bon, j'allais dire très bornée. C'est pas du tout Jeanne du Laffoy, c'est un catholicisme libéral. Or, il semble qu'elle fasse de cette femme l'idéal de la femme. Alors c'est tout de même assez étrange. À la fin de la vie de Jeanne du Laffoy, puisqu'elle va créer le prix de la vie heureuse qui est devenu notre prix féminin aujourd'hui, bon, donc c'est créé en 1904. Donc là encore, elle est très active du point de vue strictement féministe pour la reconnaissance des femmes écrivains. Mais elle va être présidente du prix de la vie heureuse et elle va siéger avec des femmes très différentes d'elle, qui appartiennent à une ou deux générations plus tardives. Alors des gens comme Anna Noailles, par exemple, ou comme Séverine, qui est de la même génération qu'elle, mais qui est une féministe de gauche. Alors qu'on pourrait dire que Jeanne du Laffoy est plutôt une féministe libérale conservatrice. Je ne dirais pas de droite, parce que je crois que de droite et de gauche, ça ne rend pas compte de la réalité. Elle va donc être confrontée à des femmes beaucoup plus jeunes qu'elle et qui ne vont pas avoir besoin, comme Jeanne du Laffoy ou comme George Sand, de se nier en tant que femme pour apparaître comme intellectuelle. Le problème de George Sand et de Jeanne du Laffoy, c'est que pour s'affirmer en tant qu'intellectuelle, pour être acceptée en tant qu'intellectuelle, elles ont été conduites et contraintes, pratiquement, de nier leur nature féminine, parce qu'on ne pouvait pas être femme et avoir un cerveau en même temps qu'on était femme. Mais ça, je cite, c'est une citation qui était beaucoup plus violente. Je l'édulcore, sinon elle n'est pas audible. Donc elle va connaître des femmes qui, au contraire, vont affirmer leur nature féminine et qui vont être des poétesses, par exemple. Donc qui vont affirmer leur sensibilité et qui vont se faire accepter comme femme et comme intellectuelle et comme écrivain. Je pensais qu'on pouvait mettre Dieu Laffoy entre George Sand et Colette. Bon, Colette étant effectivement une des représentantes de ces femmes qu'on peut dire libérées entre guillemets aussi, parce que je crois que pour Colette, la libération, elle est discutable, mais donc un autre type de femme. C'est une génération intermédiaire que celle de Jeanne du Laffoy.
Moi, j'aurais bien voulu savoir à quelle occasion est-ce qu'on a démoli la très belle salle qu'avait fait construire Marcel Dieu Laffoy au Louvre avec ses bas-reliefs gigantesques.
Oui, quand ils sont rentrés en 1885 donc, à 89, ils ont donc fait deux salles d'échuges au rez-de-chaussée. Au Louvre, la petite salle et puis la grande. Et ensuite, au premier étage, il y avait une troisième salle consacrée à Suze, où il y avait une reproduction de la Padana, traduite. Et cette salle-là, elle a disparu vraisemblablement entre 1929 et 1933, puisque c'est à ce moment-là qu'on a refait les départements des antiquités orientales, les grecs et romaines.
On n'a pas dû conserver d'ailleurs.
Et à ce moment-là, on a commencé à supprimer tout ce qui était reproduction et moulage, parce que bon, une des constantes à la fin du 19e siècle, que ce soit au Louvre, à Saint-Germain-en-Laye, mais c'était un petit peu dans tous les musées, c'était la même chose à Munich ou à Berlin. On essayait d'être très didactique, très pédagogue, et pour cela, on n'hésitait pas à mélanger les pièces originelles, les pièces de l'Antiquité, mais qui n'étaient pas contemporaines. On mettait des sculptures grecques, des sculptures romaines reproduisant des sculptures grecques plus anciennes et carrément des reproductions de la fin du 19e siècle prises sur d'autres musées. Alors cette conception-là de la muséologie a commencé à être modifiée très rapidement après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui fait que vers 1928 et 1932, les salles archéologiques au Louvre, on les a remaniées et en particulier, on a enlevé la plus grande partie, sinon la totalité, des reproductions. Alors ça, c'est d'abord été mis dans des magasins, et ensuite, un certain nombre de ces reproductions ont été envoyées dans les universités. Bon, c'est le cas de l'Institut d'art et d'archéologie, de la rue Michelet, qui a reçu un certain nombre de ces moulages. D'autres ont été purement et simplement détruits. Il faut voir, c'est une des raisons par laquelle les dieux la foi ont choisi Suse, et ensuite Jacques de Morgan, et ensuite toute une série d'émissions françaises qui ont fouillé pratiquement sans interruption depuis 1880 jusqu'à
1973.
Jusqu'aux événements de Khomeini. Il y a eu des fouilles françaises sans arrêt. Et il faut imaginer que cette ville, on ne sait pas exactement l'extension, puisqu'elle n'est pas, ceinturée par des remparts, mais on calcule entre 400 et 600 hectares. Uniquement l'ensemble palatial, la ville du palais, ça fait 130 hectares. Ça fait 130 fois la cour carrée du Louvre. Et en plus, cet ensemble palatial, à l'extension, ça fait 130 hectares, mais il a une puissance, il y a une superposition des couches de 30 mètres. Ça s'échelonne depuis les 4e millénaire, depuis les 4e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque médiévale, c'est-à-dire en gros sur 5500 ans. Et justement, c'est Jacques de Morgan qui, à Suse, va trouver pour la première fois les céramiques peintes du Proche-Orient, qui vont mettre en connexion avec les céramiques peintes en Égypte, avec les céramiques peintes en Grèce, toute une recherche comparative depuis la Perse jusqu'à la Grèce, tandis que d'autres archéologues ils vont continuer cette interrecherche de la Grèce vers l'Europe. Et à partir des éléments écrits, que ce soit au Proche-Orient ou en Égypte, on va pouvoir petit à petit donner des dates pour la proto-histoire européenne. Vous voyez qu'à partir des Suses, qui est très loin dans l'espace, on arrive à toucher des domaines qui nous sont tout à fait proches. Cette notion, disons, de la richesse du point de vue scientifique énorme que représentait ce site, ils l'ont déjà eu effectivement, les dieux la foi.
Alors, les objets de la mission de la foi, on en trouve dans 4 ou 5 salles, Louvre, mais c'est pas du tout poussiéreux, c'est même assez bien présenté, mais les salles sont complètement vides, hein. Question visiteur.
Les salles de Suse se trouvent en bout des pistes, si on peut dire, des antiquités orientales, qui elles-mêmes se trouvent, disons, à la fin du circuit actuel.
Et alors le débat sur la route gothique et
lui, il l'a défendu toute sa vie. Enfin, il a écrit de nombreux articles scientifiques là-dessus. Mmh. Mais on a consulté les derniers essais sur cette question et on ne donne pas réponse tranchée. Hein,
disons que la voûte apparaît effectivement en Mésopotamie. Bon, déjà, dans la Padana des Suse, il a trouvé dans le plan une salle où il y a, disons, deux voûtes, vraisemblablement, puisqu'il travaillait pratiquement au niveau des fondations, mais étant donné qu'il y avait des piliers encastrés, il y avait un plan allongé, et deux, ils sont arrivés à avancer l'hypothèse, et puis les archéologues actuels ne la contredisent pas, qu'il y avait vraisemblablement une salle, après la grande salle du trône, une petite salle, une sorte de petite salle de réception, dans laquelle il y avait une nef principale et deux petites nefs perpendiculaires, et vraisemblablement elles étaient voûtées. À ce moment-là, on aurait eu effectivement une sorte de croisée d'ogives, c'est-à-dire deux voûtes en verso, et qui se croisaient. Mmh. Et ce qui est certain, c'est que la voûte elle-même apparaît au moins depuis le deuxième millénaire avec des constructions légères faites avec des roseaux ou des branchages et qui donnent, si vous voulez, ensuite avec un torchis, on obtient une voûte. Donc l'origine de la voûte en tant qu'élément architectural n'est pas discuté, et ce qui n'est pas prouvé, c'est qu'à l'époque médiévale, effectivement, soit arrivé ou il y a eu une influence.
L'archéologie était devenue une science réservée à des professionnels, ou est-ce qu'elle laissait encore la place aux amateurs ?
Alors c'est justement une époque charnière. Bon, les dieux la foi sont des gens, j'allais dire ambigus de ce point de vue-là, puisque ce ne sont pas de véritables professionnels, mais on ne peut pas non plus les appeler des amateurs. Ils ont une mission officielle, même si c'est sans beaucoup de crédit. Donc, d'autre part, ils ont des compétences, enfin lui en particulier a des compétences, parce que les archéologues, qui sont-ils à cette époque? Et Jacques de Morgan va être dans le même cas, sont surtout des ingénieurs, c'est-à-dire des gens qui ont une pratique du travail de la terre, disons, des géologues, des ingénieurs de ponts et chaussées, etc. C'est l'époque où justement on va voir se former des professionnels, bon, c'est-à-dire où on voit se créer des institutions archéologiques, les chaires dans les universités, les grandes institutions, les grandes écoles à l'étranger par exemple, l'école d'Athènes qui est créée en 1847 mais qui va être très longtemps autre chose qu'une école d'archéologie. Et l'école française de Rome, qui va être créée en 1872 ou 73. Donc c'est ce moment où, effectivement, on voit se constituer l'archéologie comme une véritable discipline exercée par des professionnels. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de Botta et de Sarzec, qui ont fouillé en Mésopotamie. Alors, eux ne sont pas des professionnels de l'archéologie, parce que ce sont des gens qui travaillent, qui sont consuls. Donc ce sont des diplomates, ils ne sont pas archéologues, mais ils sont passionnés d'archéologie et puis ils sont évidemment à proximité de sites prestigieux dont ils ont entendu parler parce qu'ils ont une formation historique classique et ils vont se mettre à fouiller. Mais ce sont des amateurs, on peut les considérer, Botta et de Sarzec sont des amateurs. La preuve, c'est que les fouilles de Sarzec, bon, il va continuer à fouiller pendant longtemps, entre 1875 et le début du siècle, hein, au-delà même, un petit peu au-delà, il va mourir d'ailleurs des suites des conditions de travail. Il va fouiller, il va diriger les fouilles, il va toujours être consul, mais c'est le conservateur du département des antiquités orientales du Louvre, Léon Heuzet, qui fait l'analyse scientifique et qui étudie les objets et les monuments.
Et pourquoi Jeanne de la Foy se disait plutôt le compagnon que la compagne?
Ah oui,
de
son c'est vrai, je n'ai pas répondu. Alors elle répond en disant parce qu'une compagne aurait été trop encombrante, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas prendre des excuses strictement féminines, c'est-à-dire la femme est plus faible, c'est un poids, etc. Donc compagnon, ben compagnon, ça veut dire qu'on partage tout et dans les mêmes conditions.
Mais on la prenait pour un jeune homme, n'est-ce pas?
Et le chat lui-même, quand ils ont été reçus par le chef perse, bon, il a cru que c'était le petit frère de Marcel.
Et est-ce que ces romans sont toujours édités?
Ah non, on les trouve dans certaines bibliothèques.
Ben, on a ces deux là, qui ont été édités avant 1900.
Mais n'ont pas été réédités. Parisatis, ça a été l'objet, bon, j'en ai pas parlé, mais bon, il y a toute la vie mondaine hein, qui est très importante. Parisatis a été adapté pour un opéra de Saint-Saëns. Ça a été un succès extraordinaire.
Et elle a reçu le prix de l'Académie française pour Parisatis,
qui est un beau roman.
On vous remercie beaucoup de nous avoir fait connaître Jeanne de la Foy.